Radio Django. Vivre à Lausanne.
Retourner à la terre et s'enraciner, c'est l'objectif principal de l'association suisso-colombienne Los Pies en la Tierra, les pieds de la terre.
C'est un peu le retour à la terre, justement, parce que on trouve que dans la société, on est assez éloigné de la terre. Et Los Pies en la Tierra, c'est un jeu de mots en espagnol aussi. Je pense que ça marche un peu en français. C'est de s'atterrir. En français, ça correspondrait plus à les pieds sur terre. Mais c'est aussi, en français, on a mis dans la terre parce que ça a un rapport plus enraciné. C'est de retourner à la terre, mais de s'enraciner.
Une question d'enracinement, on l'aura compris, hein, Claudia.
Oui, Fabien, c'est en question d'enracinement avec l'association Les Pieds dans la Terre, Los Pies en la Tierra, née en 2017 avec cette association suisso-colombienne. Avec ses projets, souhaite mettre en lien des personnes, des associations et des groupes ou des institutions d'Europe et d'Amérique latine. Leur but est en commun est la création de nouveaux modes de vie plus équilibrés entre l'homme et son environnement. Et c'est à travers des activités sociales, éducatives, culturelles, économiques et politiques que l'association vise à favoriser des échanges et une solidarité mutuelle dans un but d'améliorer les conditions environnementales et sociales dans les deux continents.
Et l'association s'est présentée l'année passée à Pôle Sud dans le cadre des piments glacés. Et à cette occasion, Claudia et Jérémy, vous avez rencontré sa fondatrice Cynthia Osario.
Oui, Fabien, donc j'ai eu le plaisir d'échanger avec elle et sur leur projet. En Suisse, elle a fait des études en Suisse et en Europe, et c'est à cette occasion qu'elle est entrée en lien avec l'association Langomaille, qui lui a permis de découvrir des projets qui visaient le retour à la terre. Grâce à cette rencontre en 2009, elle est retournée en Colombie, où elle a fondé une coopérative et acheté un terrain. En 2012, elle a connu les réseaux des gardiens de semences de vie, avec lesquels elle a commencé à collaborer sur des projets pour la défense des semences autochtones. En 2017, elle a fondé son association qui œuvre entre la Suisse, la France et la Colombie.
Et donc, Jérémy, tu as pu la rencontrer lors d'une visite en Suisse. On écoute l'interview de Cynthia Osario.
Le réseau, il est plus actif et au sud de la Colombie, dans le département de Nariño, mais aussi département du Cauca, Vallée du Cauca et Putumayo, c'est des régions de montagne la plupart. C'est des régions, le réseau il est plus conformé par des paysans. La base des gens, c'est des paysans, ou aussi il y a des, ce qu'on pourrait appeler en français des néo-ruraux. Et justement, dans le réseau, les principes, c'est revenir à, ou protéger plutôt, ces modèles d'agriculture familiale. C'est des modèles d'agriculture, de polyculture, en opposition aux monocultures. Et aussi, on peut s'opposer à cette avancée du modèle agro-industriel qui s'impose partout dans le pays. Mm-hmm. Les régions où nous sommes, il y a beaucoup de cultures de café, par exemple. Pour nous, le café, c'est bien si c'est en polyculture, mais pas comme ils essayent de l'imposer, la fédération des cafés, même Nestlé. Il a beaucoup intervenu en Colombie pour faire des coupages d'arbres et faire simplement la monoculture de café avec beaucoup d'utilisation de chimiques pour le café.
Justement, comment ça se passe, les impositions du gouvernement pour favoriser la monoculture, est-ce que c'est des incitations plutôt financières ou est-ce que c'est même une loi qui interdit de faire de la culture diversifiée ou, enfin, comment ça se passe en fait concrètement?
En fait, il existe une association qui s'appelle la Fédération Nationale du Café, qui est un peu en lien avec justement Nestlé, toutes ces entreprises-là, qui son intérêt c'est d'acheter vraiment le café moins cher. Mmh. Pour acheter le café moins cher, il faut produire beaucoup plus de café. La manière comme ils incitent les gens, c'est pas vraiment avec des lois. C'est justement, ils font des prêts aux petits agriculteurs pour leur dire, voilà, on vous fait ce prêt-là, mais conditionné à un certain type de semences du café, à un certain type de culture, c'est-à-dire couper tous les arbres et faire des monocultures, et en utilisant ces chimiques-là. Parce qu'ils disent aux agriculteurs, si vous n'utilisez pas ces produits-là, vous n'allez pas avoir assez de rendements pour nous payer.
Donc les départements de Nariño et du Cauca où vous travaillez sont au cœur d'un conflit armé, malgré les processus de paix en cours.
quelles sont les conséquences pour la population et le type de violence vécue en fait par les habitants là-bas?
Bon, quand je parlais du café, c'était pour donner un exemple de monoculture, mais l'autre monoculture très, très répandue, c'est la coca, pour la cocaïne. Et ça, ça, fait, ça crée un... Comment dire? C'est un point de, crucial à défendre pour beaucoup d'intérêts, à niveau des paramilitaires, à niveau des trafiquants de drogue, à niveau des guérillas aussi, et à niveau même des gouvernements. Et du coup, ça dépend des régions où il y a beaucoup de conflits avec les gouvernements aussi par rapport à cette aspersion aérienne qui essaie de, d'éliminer les cultures de coca en mettant du glyphosate. Et aussi par la force, avec l'entrée de l'armée en arrachant les cultures par la force. Dans les accords de paix, par exemple, qu'il y a eu avec les FARC, un des points, c'était faire une transition plus en douceur de ces cultures-là, sauf que ça n'a pas été respecté. Et les paysans, finalement, ils ne sont pas contre éliminer les cultures de coca, ils sont contre la pauvreté. Mm-hmm. Quand tu vois les paysans qui produisent la coca là-bas, ce n'est pas des paysans riches. L'argent, il reste toujours dans les trafics. Mm-hmm. Et pour eux, ça serait la même chose, planter du café ou du coca, sauf qu'il y a beaucoup de conditionnements et des pressions extérieures pour continuer à produire la coca. Et voilà, ça c'est un point en conflit, il y a beaucoup de menaces, il y a des morts, il y a eu des combats aussi au milieu où il y a eu beaucoup de paysans qui ont été morts aussi, qui essaient de défendre pas vraiment la coca, mais justement un modèle plus... en douceur pour sortir de cette problématique-là. Mmh. Mais il se trouve, comment dire, comme un sandwich en milieu de, entre l'armée qui vient arracher et les narcotrafiquants aussi.
Et du coup, le travail de l'association, comment est-ce qu'il contribue à l'amélioration de la situation dans ces deux départements du sud de la Colombie?
Ben, nous, on défend beaucoup la souveraineté alimentaire. Par exemple, pour nous, la coca, on essaie de la récupérer comme un aliment, comme une médecine. Ça dépend de chaque région. Par exemple, là, récemment, on était beaucoup en contact avec un groupe de réseau des semences qui est dans une région très productrice de coca. Et c'est des petits pas qu'ils font, mais c'est important aussi. Par exemple, ils essaient de dire aux producteurs, aux paysans vraiment qui produisent la coca, regardez, si vous voulez vous en sortir de ça, vous pouvez le faire petit à petit. Il y a ces autres utilisations-là. Vous pouvez produire la coca sans chimique déjà. Vous pouvez manger la coca. Vous pouvez produire des gâteaux. Vous pouvez produire des médicaments. Vous pouvez faire des pommades. Vous n'êtes pas obligé d'arracher la coca comme ça. Et on fait des propositions de transition, par exemple. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, le réseau, il est autonome. Du coup, ça, c'est les gens de cette région-là qui proposent cette solution-là concrète pour ça. Il n'y a pas une politique du réseau pour faire ça dans tous les pays. Mmh. Ça dépend réellement de chaque région. Mmh. Du coup, ces groupes-là qui se trouvent depuis les années 70 au milieu de ces conflits-là, ils sont autonomes dans la manière comme ils proposent ces solutions aussi. Mmh. On ne peut pas copier un modèle qui s'est fait à un endroit, à un autre endroit, c'est vraiment particulier. Mmh. Mais ça, c'est une des solutions, par exemple. On dit aux gens aussi, dans ce groupe de semences qui se trouve dans cette région, par exemple, ils disent aux gens, petit à petit, vous pouvez planter un arbre d'oranger ou des choses qui vont avec la coca. Vous pouvez continuer à produire la coca, mais en même temps, vous allez avoir de la nourriture, du maïs, d'autres choses. Et c'est comme proposer des différents pas qui vont aller petit à petit pour une transition aussi. Et c'est démontrer... C'est un peu aussi de diaboliser la coca, parce qu'en Colombie, il y a beaucoup une vision de la coca comme associée, pareil ici, je pense, associée exclusivement pour la cocaïne. Mmh. Et on essaie de dire que ce n'est pas la plante qui est mauvaise, c'est vraiment l'utilisation qu'on lui donne.
Donc, tu nous as parlé du réseau des gardiens de semences de vie. Est-ce que tu peux nous expliquer ses objectifs et où il agit?
Le réseau des gardiens de semences de vie, c'est vraiment de sauvegarder des semences, soit anciennes, soit qui sont en train de se perdre, parce que maintenant, la monoculture, ça implique beaucoup de pertes variétales. Du coup, l'objectif, c'est sauvegarder la biodiversité agricole et associé aussi aux arbres. Il y a aussi une conscience de l'environnement, parce qu'on ne peut pas faire une agroécologie sans penser à l'eau, sans penser à pas avoir une forêt, à avoir des animaux. C'est assez large comme objectif, mais le point qui nous réunit, c'est toujours la semence.
Donc il y a l'Hospice en la Tierra dans plusieurs pays. Est-ce qu'il y a des spécificités pour l'association ici en Suisse? Tu parlais avant de souveraineté alimentaire, là on a une votation. Est-ce que l'Hospice en la Tierra milite pour ce sujet-là, ou quelles sont ces activités, disons, spécifiques à la Suisse?
Les activités, quand on a fait les activités en Suisse, comme on parle justement de la souveraineté alimentaire à partir de la semence, à chaque fois qu'on parle de la situation en Colombie, c'est aussi montrer l'effet miroir en Suisse. Et c'est-à-dire la situation colombienne, elle n'est pas très différente à la situation en Suisse à niveau alimentaire. La violence, c'est pas la même, mais à niveau alimentaire, c'est à peu près la même chose, sauf qu'en Suisse, c'est plus grave qu'en Colombie. En Colombie, il y a quand même encore beaucoup de paysans qui sont avec ce lien à la terre. Moi, je sens qu'ici en Suisse, ce lien, il est très perdu. Même, heureusement, il y a des mouvements qui essayent de récupérer. Et du coup, quand on parle de semences, ça touche les Suisses par rapport à sa propre souveraineté alimentaire. Et un travail spécifique qu'on fait ici avec la Suisse, c'est le rapport avec les OGM. Parce qu'en Suisse, c'est un pays qui s'est déclaré comme non-OGM, il y a un moratoire, mais il y a Syngenta ici. Et donc, pour nous, c'est important de dire, s'il n'y a pas des OGM ici, en Suisse, normalement, on ne devrait pas les produire. Il ne faudrait pas avoir une entreprise qui produit ça et qui vend ça aux autres pays, ou même qui vend des produits chimiques pour l'agriculture qui empoisonnent ailleurs. Et aussi, on a et beaucoup le lien avec l'association. Le but, ça a été de faire des tests, parce qu'en ce moment, on a... Depuis quelques années, on a découvert que les maïs qu'on protège, des maïs autochtones, ils ont commencé à avoir des contaminations par des OGM, par des maïs OGM. Donc, on doit faire des tests, et ces tests sont assez chers pour nous. Il faut les exporter et importer des États-Unis. Et avec l'association, un peu le but, c'est aussi de chercher des fonds ici pour pouvoir continuer à faire ces tests. Ce qui est important pour nous, c'est de dire que ces tests sont devenus pour nous un outil pédagogique et politique aussi. Quand on fait les tests pour savoir si nos maïs sont contaminés ou pas, on implique un peu tout le monde de la région. On fait venir, si on peut, le maire, un peu les gouvernements régionaux pour les informer, mais aussi les paysans qui produisent. Du coup, on fait des rencontres de 200 personnes ou plus en essayant d'informer les radios et tout pour expliquer la problématique des OGM, parce qu'en Colombie, ce n'est pas assez connu. Pour expliquer justement les risques de l'utilisation de ces produits chimiques. Et la Suisse est devenue un des objectifs de l'association, c'est de nous aider justement à trouver ces fonds-là pour faire ces choses qu'on n'a pas l'argent pour le faire là-bas.
Dans les buts de l'association, on a vu que vous militiez aussi pour la récupération de savoir-faire. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples en fait de savoir-faire qui disparaissent et qui ont besoin d'être sauvegardés?
Déjà, le lien à la terre, il est très perdu. Même planter la graine, récupérer la graine, les gens ils commencent à perdre ces savoirs. Par exemple, quand tu plantes du maïs, il faut savoir quelle graine du maïs tu sélectionnes dans l'épi du maïs pour que ce soit les bonnes graines. Il y a un savoir associé par rapport à la production de semences qui commence à se perdre, que nous on essaie de maintenir en vie. Il y a savoir-faire par rapport au lien entre tous les éléments d'une ferme, par exemple, parce que avoir des animaux, c'est important pour avoir le fumier. Du coup, pour nous, c'est important aussi la diversité des animaux. Et le fumier, c'est important aussi pour faire un engrais naturel qui ne soit pas avec des chimiques. Et tout ce savoir-faire, il commence à se partitionner. Soit il y a quelqu'un qui fait une partie, soit les gens ils perdent l'habitude d'utiliser le fumier pour aller acheter des produits chimiques. Et les savoir-faire, c'est par exemple comment combattre une maladie avec des plantes, une maladie d'interculture. les gens ils commencent à perdre ces savoirs. Du coup, on va chez les anciens pour savoir comment ils faisaient avant et pour réappliquer ça et pour inventer aussi de nouvelles choses, parce qu'avec la technologie actuelle, tu peux chercher aussi de nouvelles techniques qui s'utilisent ailleurs. Mm-hmm. Du coup, on n'est pas fermé à apprendre des techniques nouvelles, mais ce qu'on s'oppose, c'est aux techniques qui sont hors notre contrôle. On ne veut pas avoir une technique qui va nous rendre dépendants. On veut utiliser des techniques qui nous libèrent.
Pour sauvegarder ces techniques, pour les transmettre plutôt, comment vous faites ? Est-ce que vous enregistrez, vous filmez les gens dans leur travail, vous écrivez, vous consignez tout ça ? Est-ce que c'est de la transmission orale ?
Je viens de la ville et je fais des études en université. Et quand j'étais à la campagne, j'ai compris que le savoir-faire, ça implique le corps humain aussi. Une chose, c'est de savoir, par exemple, faire un gâteau. Mais autre chose, c'est quand tu touches, quand tu enfonces la graine dans la terre, tu peux le voir aussi avec un film. Mais le principal, c'est de le faire. Du coup... Par exemple, on fait du bénévolat chez nous, où les gens ils peuvent pratiquer par rapport à la construction naturelle ou par rapport aussi aux semences. On essaye d'impliquer les enfants aussi. Et ça dépend aussi de chaque centre, mais il y a beaucoup de liens avec les écoles. Il y a des gardiens de semences qui sont en même temps profs. Du coup, ils font dans les écoles aussi les jardins pour que les enfants ils apprennent à planter, à avoir des animaux, Et c'est de savoir que c'est bien avoir des outils écrits et filmés. On n'a pas trop la capacité de le faire. S'il y a des bénévoles qui veulent faire, des fois c'est arrivé qu'il y a des gens qui viennent filmer. Mais nous, on n'a pas cette capacité, pas beaucoup. Mais pour nous, la transmission des savoirs, c'est très important que ça passe par l'expérience.
Pour conclure, est-ce que tu aurais... Un message à passer peut-être aux habitants citadins de Lausanne par rapport à cette problématique. Est-ce qu'il y a des actions que chacun pourrait faire comme ça déjà depuis chez lui ou des choses assez simples ?
Il y a beaucoup de choses à faire, j'ai plein de messages à passer. Je ne sais pas si on va dépasser là. Mais déjà... si vous voulez soutenir l'association, pour nous, c'est très important de continuer à faire ce travail en Colombie, surtout de détection d'OGM. On est un peu dans l'urgence aussi. Mais ici aussi, de prendre aussi le moment pour récupérer les liens à la Terre. Pour moi, c'est très important que pour la vie, pour la vie de chacun. Ici, je vois qu'en Suisse, tous les gens sont toujours trop pressés. Il y a personne qui a le temps de faire rien. On est toujours en Colombie, ça arrive aussi. Tous les gens sont à fond sur plein de choses, mais de vraiment prendre du temps pour retourner à la terre et à ce lien avec la nature, c'est très important aussi. Et c'est pour ça le nom de les pieds dans la terre. Et sinon, si vous voulez vous informer plus sur ce qu'on fait à l'association, s'il y a aussi des possibilités de faire du bénévolat chez nous, on est ouvert un peu à toutes ces propositions-là.
Voilà, c'était Cynthia Osario, fondatrice de l'association Los Pies en la Tierra, les pieds dans la terre, lors d'un passage en Suisse. On vous le rappelle, c'est une association qui œuvre entre la Suisse et la Colombie dans l'objectif de retourner à la terre, récupérer les savoir-faire ancestraux et défendre les semences autochtones, tout en travaillant en réseau. Merci beaucoup à toi, Jérémy. Une belle soirée et à tout bientôt.
Merci.
Merci également à Claudia pour la préparation de ce sujet. Un sujet à retrouver et à écouter en podcast sur notre site www.django.fm. Voici un peu de musique et après, suite de ce grand direct. Never feel happy. No, you won't. Until you try. You'll never feel happy. You
song is not a funk song. This song is not a wrong song. But this song is a real song.
Lady G, français de Nantes pour être tout à fait précis. C2C, cette chanson de 2012, Happy, pour donner un peu de bonne humeur dans ce grand direct. 18h24, voici Cultiver Lausanne.